Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Sirgue, Pierre Forest et Éric Figuère. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, de la Formule 1 avec le Grand Prix du Canada, du golf avec l'US Open et du rugby avec les phases finales du top 14. Après une page de pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Grégory Sirgue, on va commencer par vous et la Formule 1. Et une fois n'est pas coutume, c'est une Mercedes qui s'est imposée. Ça faisait quelques temps que c'était pas arrivé. C'était pas encore arrivé cette saison.
C'est ça, celle de Russell qui a fait un week-end parfait, puisqu'il signe la pole position, il fait le meilleur temps autour pendant la course, et puis il remporte le Grand Prix. Donc,
un Grand Prix qu'il a dominé quasiment de bout en bout, hein, au gré des changements de pneumatiques, mais qu'il a quand même maîtrisé.
C'est ça, le Grand Prix a été marqué par des choix stratégiques très différents selon les équipes, qui la plupart avaient fait le choix d'utiliser que deux gommes différentes, à savoir les durs qui durent plus longtemps et les médiums qui sont théoriquement censés durer moins longtemps. Et on a pu assister à des situations cocasses où les pilotes en piste étaient satisfaits de pneumatiques qui théoriquement étaient moins bonnes et qui ont été forcés par leurs ingénieurs à rentrer, à faire des choix stratégiques un peu étranges, quoi. Et c'est principalement ça qui a animé la course quand même, c'est pas forcément les dépassements en piste et les seuls dépassements qu'on attendait et qui devaient arriver sur la fin, puisqu'on voyait Norris et Piastri bataillé et
pour la quatrième,
mais il y avait en même temps la bataille avec Antonelli qui était troisième, donc vraiment le podium ça promettait d'être haletant jusqu'à la fin. Et les deux pilotes se sont crashés. Alors Piastri a pu en sortir et finir la course, mais Norris s'est arrêté le long de la ligne, juste après la ligne des stands.
Alors on va en parler tout de suite de cet incident entre les McLaren, c'est quand même le fait marquant finalement de ce Grand Prix, et Norris qui assume totalement sa faute, hein, qui a tout de suite dit dans son cockpit que c'était lui qui avait tenté de passer à un endroit où...
Il n'avait pas la place.
Il n'avait absolument pas de place.
Il n'a pas de place, donc il a l'aileron qui touche l'aileron à l'avant gauche, qui touche le mur, qui finit sous sa voiture, ça explose tout et du coup il s'arrête sur place. Et Piastri continue, heureusement il n'a pas eu de dégâts, parce que sinon ça aurait pu être un zéro pointé pour les McLaren, et ça fait très très moche, surtout quand pendant une majeure partie de la course, alors à part avec Russell, mais on joue quasiment pour la gagne, quoi, puisqu'ils ont quand même été en tête pendant une partie de la course.
Une bonne partie, absolument.
Donc c'est assez moche de finir comme ça, quoi. Surtout entre coéquipiers, où il n'y a pas une rivalité qui est non plus exacerbée comme on a pu voir dans d'autres équipes par le passé.
Est-ce qu'on peut dire pas encore ? Est-ce que ça peut
arriver ? Pas encore, mais là, ça peut jeter un froid quand même. Il y avait l'an dernier les prémices quand ils devaient se laisser passer pour gagner, pour que chacun ait un peu son heure de gloire. Là, jusqu'à présent, les seules consignes, c'était vous pouvez vous attaquer sans, du moment que vous ne touchez pas. Maintenant, ça va peut-être changer, quoi.
C'est ça, c'est un peu la même consigne que chez Ferrari. Il n'y a pas de pilote numéro 1, donc celui qui est en tête au championnat, forcément, fait un peu la loi, quoi.
C'est ça, il fait un peu office de numéro 1. quand même, Norris revenait très très fort sur Piastri et il l'aurait passé à la régulière. Bon, et mauvais choix tactique.
Et il aurait probablement passé Antonelli qui était juste devant aussi.
Là, aujourd'hui, il perd un podium et dans la course au championnat du monde où il est derrière Piastri, perd des très gros points.
On va revenir un petit peu sur Russell, qui est un pilote qui ne fait pas de bruit, j'ai envie de dire, dont on parle très très peu, mais quatrième victoire en carrière, malgré tout, sur la Mercedes. C'est un pilote qui est toujours placé, souvent placé en tous les cas, mais qui a réussi là, à tirer son épingle du jeu, à faire, comme vous l'avez dit, le week-end parfait.
Exactement, il fait pas de bruit. Médiatiquement, on ne le voit pas... ou sur les réseaux, ou passer à la télé, ou faire des choses comme ça, mais il se concentre sur son pilotage, tout simplement. Après, l'avantage qu'ils ont chez Mercedes, c'est que c'est beaucoup le team manager, donc Toto Wolff, qui lui prend toute la pression médiatique, puisqu'on voit que même Antonelli fait pas de vagues, mais il est toujours placé aussi pour un rookie, donc plutôt une saison intéressante pour eux. Alors, ils joueront pas la victoire finale au classement constructeur, mais ils se débrouillent bien et ils travaillent sérieusement, quoi.
Et ils vont tout faire pour terminer, en tout cas, deuxième derrière les McLaren. On va revenir justement sur Kimi Antonelli, troisième plus jeune pilote à monter sur un podium, 18 ans, 9 mois et 21 jours, pour être très précis. Belle performance quand même. Et donc pour Mercedes, c'est presque le week-end parfait en plus.
Ah oui, bah parce qu'il repart de là plein de confiance, malgré l'âge qu'il a, c'est pas toujours évident pour les jeunes pilotes. On voit avec les autres rookies de la saison qui ont moins de réussite. Et ça montre qu'il a aussi compris sa machine, ce qui n'est pas évident puisque elle est rarement développée pour que les deux pilotes puissent en tirer tout le potentiel. On le voit chez Red Bull notamment, où il n'y a que Verstappen qui arrive à conduire la voiture et jamais les autres. Donc Antonelli, plutôt un week-end satisfaisant pour lui et qui va lui donner de la confiance pour la suite, quoi.
Un petit mot sur les Ferrari qui font 5e et 6e. 5e Leclerc, 6e Hamilton.
Alors,
pas inquiété par ce qu'il y a derrière, mais pas non plus capable d'aller chercher ce qu'il y a devant.
Leclerc aurait pu faire quelque chose, mais c'est à ça que je faisais référence sur les choix tactiques un peu bizarres et les incohérences entre ce qui se passe en piste et ce qui se passe sur les ordinateurs des ingénieurs, où on a Leclerc qui a discuté chacun des choix qui lui ont été dictés par son équipe, où les choix étaient dictés par les données qui remontent sur les ordinateurs, mais le pilote en piste, lui, se sentait en confiance et on l'a quand même contraint à rentrer. Je pense qu'il aurait pu viser un podium au Canada, mais ça n'a pas été possible. Et après, on sent qu'effectivement, il y a de la marge pour aller chercher les autres. C'est pas encore ça. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, il y a un changement total de réglementation. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas déjà en train de se concentrer et ils ont fait une croix sur cette saison.
Un petit mot sur nos pilotes français. Ocon 9e dans les points.
Ocon 9e, ça a été la bonne surprise sur le Grand Prix. Ils sont quand même arrivés jusqu'en Q1, sauf erreur de en Q3, pardon, sauf erreur de ma part au qualif. Donc, ça a plus trop bien travaillé ce week-end. Et pour les autres Français, ça a été plus compliqué quand même.
C'est ça, Gasly 15e, Hadjar 16e, un week-end à oublier.
À oublier, puis
traîné en fond de grille.
C'est ça, Gasly fait le dernier temps en qualif. Quand même. C'est vraiment... Alors,
et loin, très loin.
Dit comme ça, ça a l'air dramatique. Mais il finit à quelques dixièmes du premier. Donc, c'est pas non plus... La différence, ça serait un tour de roue. Mais maintenant, les écarts sont tellement infimes. Mais il est dernier de la qualif, quoi.
Voilà. Et un petit mot sur donc le classement au championnat du monde. On a donc Piastri toujours devant avec 198 points, devant Norris à 176. Donc il a repris un petit peu d'avance. Verstappen est toujours troisième à 155 points. Et Russell vient donc se placer là quatrième avec 136 points devant Charles Leclerc 104 points.
C'est ça. Sachant qu'on le rappelle, la victoire en course c'est 25 points et la victoire en course sprint c'est 8 points. Donc il suffirait qu'un pilote fasse le coup double dans un week-end où il y a course sprint pour totalement modifier le classement. Donc, c'est pas encore joué non plus.
Prochain Grand Prix,
c'est le Grand Prix d'Autriche le 29 juin.
Dans 15 jours, donc, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Messieurs, on va passer au golf et avec un final ce matin, Eric Figuère, assez incroyable. Une victoire de JJ Spawn, sa première en majeur à l'âge de 34 ans avec un putt sorti de nulle part. On en parle tout de suite.
Oh, le putt, on va attendre peut-être un tout petit peu. Il y a tellement à dire. Un final, un finish époustouflant. Enfin, il y a pas de qualificatif. Si ce n'est que ce sont des choses. Alors, c'est vrai que ce finish-là et ce tournoi-là, on n'avait pas vu ça depuis bon nombre d'années. Il s'était passé évidemment beaucoup de choses. Il y a toujours des rebondissements, etc. Mais là, ça a été irrespirable. Vraiment à proprement parler irrespirable. Heureusement que, enfin pour moi en tous les cas, qu'un de mes favoris ne jouait pas la gagne, parce que avec un dernier tour comme celui-là, je serais pas là pour en parler. Peut-être ça aurait été trop compliqué. Mais malgré tout, un dernier tour extraordinaire et donc avec un vainqueur extraordinaire. Alors c'est évidemment pas celui qu'on attendait. Il y avait trois super favoris. Bon, on sait qu'en golf, les favoris sont rarement à l'arrivée, à part peut-être effectivement les tout meilleurs, les plus grands. Mais malgré tout, c'est très très difficile. Donc, on n'attendait pas ce joueur. Une fois qu'on l'a vu quand même en piste, alors d'abord, il est en tête après le premier tour.
Exactement.
Donc ça compte quand même.
C'est leader le soir de la première.
Ça compte
journée.
Quand même. Il était leader à moins 4. C'est un joueur. Certes qu'on n'attendait pas, mais sur qui il fallait compter malgré tout, parce que c'est un joueur qui était quand même au début du tournoi 25e mondial, C'est pas rien quand on voit le niveau aujourd'hui général. C'est un joueur qui avait fait de très très bons résultats cette année. Il avait fait deux deuxième places, une troisième place et une deuxième place notamment en perdant en play-off contre Rory McIlroy au mois de mars au Players Championship. Donc ça compte quand même. Et ça lui a sans doute servi, je pense, pour aller chercher la gagne. Et puis, donc, c'est un très très bon joueur, vraiment un très très bon joueur, très solide, qui peut présenter peut-être des fois un peu moins d'intérêt que d'autres, mais c'est un joueur très très solide, très agréable à regarder, un joueur très très fort. Et il l'a évidemment prouvé, puisque l'US Open est le tournoi majeur et le tournoi le plus difficile du monde. C'est pas compliqué. Il est tous les ans le plus difficile à gagner, le plus difficile tout court. Et encore plus quand ça se joue à Oakmont, en Pennsylvanie, comme cette année, où là, c'est carrément, c'est carrément un monstre, en fait. Et tout à l'heure, je pensais à ça et j'imaginais un taureau dans l'arène avec un homme dessus à essayer de le dompter. Mais là, c'est exactement pareil, en fait. Ce tournoi-là. Alors. Les bons amateurs, pourraient s'imaginer jouer sur ce parcours. Moi, je m'imagine jouer sur ce parcours et j'ai peur. J'ai peur de manger chaud plus que chaud à chaque tour. Donc, c'est carrément un monstre par sa longueur, mais surtout par sa préparation. Et c'est ce qui l'a rendu assez exceptionnel et ce qui a rendu ce dernier tour encore plus exceptionnel avec ce final improbable, incroyable. Alors, avec un putt, tu en as parlé, on peut en parler quand même, un putt d'une vingtaine de mètres. On peut le voir sous un certain angle et s'apercevoir que c'était juste improbable qu'il le rentre. Alors, c'est pas avec ce putt qu'il gagne, parce qu'il arrive à faire quand même birdie au 17, ce qu'il ramène devant avec un drive fabuleux. Il se met en un coup sur un par 4, là où normalement il en faut deux. Et puis, il arrive à faire birdie et à revenir au contact. Et puis au 18, il y a ce putt. Voilà, il lui en fallait deux pour gagner. Il a certes été un peu aidé par son partenaire de jeu, Victor Hovland, qui lui a donné un petit peu la ligne, mais...
Qui avait exactement le même putt à un mètre près de décalage à jouer juste
mais
avant.
Mais même avec ce beau putt de DJ Spawn, puisque c'est de lui dont il s'agit, on n'a pas trop parlé. Enfin, j'ai parlé de lui, mais sans trop citer son nom, DJ Spawn. Qui était donc 25e mondial à 34 ans et qui, là, je pense, va gagner quelques places. Et donc, ce putt d'une vingtaine de mètres, improbable, avec de la pente, de la vitesse, parce qu'on a parlé du parcours, j'ai parlé du parcours qui est extraordinairement difficile, par sa préparation, avec des roughs incroyablement difficiles à jouer, et les meilleurs du monde, puisque c'est ceux-là dont il s'agit, en ont bavé pendant 4 jours. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul joueur sur le par, c'est pas pour rien, voilà,
c'est le vainqueur. C'est le seul à avoir dompté le parcours, finalement.
Voilà. Et avec des greens d'une vitesse incroyable, avec des pentes incroyables, c'est le mix de tout ça, en fait, qui le rend aussi difficile, avec en plus des conditions de jeu, les trois derniers tours, et plus particulièrement le dernier, puisqu'il y a une interruption de jeu, ça a été incroyable. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et voilà, un dernier putt incroyable, il le rentre, c'est absolument magnifique.
Alors, il y avait tout pour que les...
Mais il faut m'arrêter, parce que sinon j'en ai pour jusqu'à demain.
Toutes les conditions étaient réunies pour justement que le suspense soit à son maximum, c'est-à-dire que la météo a été exécrable quasiment tout le week-end, sur les 4 jours. Il y a eu une interruption effectivement sur ce dernier jour, il y avait eu une interruption sur le début du Moving Day, il y avait une interruption aussi vendredi, donc ça a été très très compliqué d'un point de vue de la météo. Et puis il démarre ce dernier tour avec 5 bogeys
j'allais revenir là-dessus, effectivement, parce qu'on n'en parle pas assez.
Il fait l'allée, ce qu'on appelle l'allée, les 9 premiers trous, avec 5 bogeys.
Il démarre le 4e tour avec un coup de tard. Donc il est parmi les 3 ou 4 joueurs. Alors ils étaient un petit peu plus nombreux parce que le parcours étant très difficile, tout pouvait se passer, mais il était vraiment, vraiment à la gagne. Et puis il fait 5 bogeys en 6 trous, c'est-à-dire à chaque fois un coup de plus que le par. Et là, évidemment, tout va mal. Hein. Sam Burns joue bien, il est en tête, il maîtrise son sujet. Et puis, tout doucement, ça va se déliter, bien sûr, mais ces 5 premiers trous, en fait, doivent le mettre au fond du trou. Et puis, il y a cette interruption de jeu qui, probablement, lui permettent de souffler un petit peu. Et puis, la fin de partie, la fin du parcours étant, là encore une fois, très difficile, lui, il arrive à se maintenir, avec quand même un score largement au-dessus du par. Et puis tout doucement, les joueurs qui sont en tête, eh ben, ma foi, dégringolent. Tout doucement, lui aussi. Reste à sa place. Et puis, comme j'ai dit, il accélère extraordinairement bien sur les deux derniers trous avec deux birdies. Et puis finalement, il rafle la mise. C'est tout bonnement incroyable.
Bon, voilà, un nouveau vainqueur, donc, puisqu'il n'avait jamais gagné de majeur. Donc, un nouveau vainqueur en majeur dans
sa vie est d'ores et déjà complètement chamboulée, transformée. Il est exempté pour 10 ans. Il a gagné 4 300 000 $. Alors, il n'y a pas que ça, mais enfin, ça compte quand même dans le sport professionnel. Mais surtout, des exemptions. Voilà, il va participer à tous les grands tournois pendant 10 ans. C'est juste incroyable. Avec bien plus longtemps, puisque lorsqu'il sera senior à 50 ans, il pourra jouer le Champions Tour automatiquement, puisqu'il aura gagné un tournoi majeur. Non, c'est juste incroyable. C'est franchement extraordinaire.
Un petit mot sur Victor Pérez qui finit 19e et Mathieu Pavon 64e, qu'on a vu donc sur les 4 tours. C'est presque la bonne nouvelle, ça.
Alors, on avait déjà beaucoup de chance d'avoir 3 joueurs français au démarrage de ce tournoi. C'est déjà exceptionnel. 2 qui ont réussi à passer le cut, puisque Frédéric Lacroix, lui, l'a raté d'assez loin quand même. Et puis Mathieu Pavon qui, à un moment donné, nous a laissé espérer un beau tournoi.
Après les deux premiers tours,
effectivement, on pensait que ça pouvait passer, et en fait non, il a été broyé par le monstre comme beaucoup d'autres, voilà, et malheureusement il a fini avant-dernier de ces 64 joueurs qui ont réussi à passer le cut. Donc j'espère pour lui malgré tout que ça pourra le relancer, même si c'est un peu paradoxal de finir avant-dernier et de pouvoir se relancer,
il était assez satisfait sur ses réseaux sociaux d'avoir joué les 4 tours.
Voilà, comme je dis toujours, c'est bien d'être satisfait d'avoir joué comme ça, mais il faut effectivement que ça serve à quelque chose. Et Victor Pérez, on l'attendait quand même, parce qu'il était en forme, il a prouvé que c'est un des très très bons joueurs au niveau mondial. Alors il est 99e mondial, je pense que ça va lui faire gagner quand même quelques places, mais on se rend compte que pour un joueur qui fait 19e sur le tournoi le plus difficile du monde, il est classé 99e mondial, on comprend à quel point c'est difficile de se classer, mais il a montré qu'il avait le niveau. Il aurait pu gagner, je ne le pense pas, mais il aurait pu faire un top 10, c'était tout à fait dans ses cordes. C'est un petit peu dommage, mais il a fait un très très beau tournoi, bravo.
Bon, et donc prochain et dernier majeur de cette saison, The Championship.
Le British, l'Open britannique, dans un mois à peu près. Voilà, ça se déroulera en Irlande. Voilà, chez McIlroy justement, et chez Sean Lowry aussi, son copain. Donc on va avoir là aussi du beau spectacle. On n'aura pas un tournoi aussi difficile que celui-là. On aura beaucoup d'émotions, ça c'est certain.
Mais on peut avoir des conditions climatiques difficiles.
On peut avoir des conditions climatiques difficiles, mais malgré tout, il faut vraiment parler de ce parcours Oakmont qui a été, je pense, sans minimiser la victoire de Gigi Spawn, qui est juste absolument fabuleuse. Mais il y avait deux stars ce week-end. Il y a le vainqueur qui a réussi à battre ce parcours et puis le parcours, et ça c'est vraiment très important.
Bon, eh bien on va suivre ça dans les semaines qui viennent avec beaucoup d'intérêt, et on va passer au rugby, Pierre Forest, avec votre très beau t-shirt de la Coupe du Monde.
Merci.
On va passer au top 14. C'était ce week-end les quarts de finale, ce qu'on va appeler les quarts de finale, access match. Et donc samedi matin, ça a commencé avec Bayonne qui s'est imposé assez facilement à domicile contre Clermont, 20-3.
Oui, autant
l'équipe de Clermont.
Autant la victoire de Bayonne était attendue, parce qu'il faut savoir que Bayonne est resté invaincu tout au long de la saison.
À Jean Daugé,
26 journées, 26 victoires à domicile. Et donc la citadelle.
Non, 13 seulement. 26 journées, mais 13
oui,
à domicile.
Oui, 13 à domicile. Donc, véritablement, la citadelle de Jean Daugé est imprenable. Et c'est aussi la preuve que finir 3e et 4e du top 14 permet de recevoir. Et surtout, dans le quart de finale, sur les phases finales, il vaut mieux recevoir, on l'a vu.
Ça donne un avantage.
Bayonne, malgré des conditions atmosphériques complètement... il y avait un orage, il n'a pas arrêté de pleuvoir. On n'a pas vu du beau rugby. Hein, ça a été un rugby désordonné. Mais bon, il y a le public. Hein, quand on dit Jean Daugé, il y a aussi le public. La Peña Bayona, où là, c'est... évidemment, ça transcende l'équipe qui reçoit et ça paralyse hein, certains joueurs de l'équipe adverse. Donc, tout était avantagé pour Bayonne. Donc, 20 à 3, je crois qu'il n'y a rien à dire sur le... Montferrand, clairement, a beaucoup déçu parce que le week-end précédent, ils étaient allés chercher la qualification en allant gagner à Montpellier.
Exactement.
Ils n'étaient pas sûrs et ça leur permettait de sortir La Rochelle des 6 qualifiés. Et là, on n'a pas reconnu l'équipe de Clermont qui a quand même... certaine expérience.
Voilà, Christophe Furios a été très clair, il a dit mon équipe est passée complètement à côté de son match.
Donc, et c'était le dernier match également de Camille Lopez, hein, qui est le Bayonnais, et qui a été champion de France avec Clermont justement quelques années avant. Donc il y avait une passation un petit peu de nostalgie sur la fin.
Alors ça c'était sa dernière à Jean Daugé, ça c'est sûr. Mais donc Bayonne rencontrera Toulouse.
Bayonne rencontre Toulouse en demi-finale à Lyon.
Le week-end prochain.
Le week-end prochain. Les deux demi-finales ont lieu à Lyon. Et oui, là, normalement, les pronostics vont vers Toulouse, qui a quand même qui a dominé toute la saison, qui a fini premier de la saison 2014.
Même si on les sent en perte de vitesse ces dernières semaines.
Même si on les a sentis un petit peu, non pas en perte de vitesse, mais à force de faire tourner l'effectif. Vous savez qu'ils ont un effectif de 60 joueurs salariés qui permet de faire jouer tout le monde pour les garder sous pression et sous la main. Ils ont peut-être là intérêt à la demi-finale. Bon, c'est Bayonne, ce n'est que Bayonne, mais attention, sur les phases finales, c'est sur un match, tout est possible. Mais là, je pense qu'ils ont été prévenus quand même, parce qu'ils ont, le dernier match de top 14, ils ont été battus à Perpignan par l'USAP, justement, qui a sauvé sa place, on le verra après, pour rester, non pas dernier, mais avant-dernier.
C'est le problème de faire tourner, tout le monde est frais pour jouer deux compétitions de front, la Coupe d'Europe et le championnat, mais les automatismes, après, ils sont perdus.
Malgré que des blessés qui ne joueront pas, donc évidemment, on pense à Antoine Dupont, on pense à Peato Movaca également, qui ne reprendra pas, et l'Italien, l'international italien Capozzo, qui aussi est sur le flanc, donc ils ont quand même du matériel derrière, ils ont de la ressource, et avantage
à Toulouse. Allez. On va garder ça en tête. Dans l'autre quart de finale, Toulon s'est largement imposé à Mayol contre Castres, 52-23.
Alors, c'était un peu plus compliqué quand même pour Toulon, pendant au moins une heure de jeu, jusqu'à
le score s'est alourdi
minute,
sur la fin.
Où là, les Castrés, ils ont tenu tête, notamment dans le combat, et surtout devant. Ils n'ont pas donné facilement la victoire à Toulon. Toulon, je crois qu'il y a un moment où il y a les deux trois quarts de Castres, qui, notamment Lebrun, qui est un ancien Toulonnais qui joue à l'ouverture, et Geoffrey Palis. Ces deux arrières qui leur sortie a complètement désorganisé le jeu des Castrés derrière. Et ce qui a permis à Toulon qui... Alors, c'est vrai que Castres a encore un peu la disparition de leur joueur Sosaya...
Raisuke.
Mais là, c'est Toulon qui a sorti son Fidjien, en l'occurrence Vainicolo, qui est champion olympique, je crois, c'est les Jeux olympiques de Rio 2016, me semble-t-il. Donc médaillé champion olympique à Rio, et qui fait sa dernière saison avec Toulon, puisqu'il s'en va, il change de club l'année prochaine, mais qui a fait du mal et dans les 20 dernières minutes à Castres. Un autre joueur qui revient bien, c'est Jaminet.
Exactement,
qui est l'international.
27 points pour lui tout seul.
27 points, et puis au-delà de... On connaît son coup de pied monumental, hein, c'est un buteur au plus, il est très adroit, mais c'est surtout que maintenant il vient s'intercaler dans la ligne de trois quarts en tant que 15, donc c'est un plus qu'on ne voyait pas il y a quelques années de ça, ou même quelques mois en début de saison, on ne voyait pas, et là, Vainicolo Jaminet, ça fait une bonne paire pour désorganiser éventuellement, et c'est ce qui s'est passé en fin de match contre Castres.
Et donc les Toulonnais rencontreront le champion d'Europe Béglé le week-end prochain. Le deuxième contre le troisième de cette saison régulière.
Voilà, et donc ça ne va pas être facile, hein, Toulon. Mais Toulon a au moins deux arguments. Ils ont un paquet d'avant, hein, qui peut contrecarrer un petit peu l'équipe de champion d'Europe, de Bègles-Bordeaux, parce qu'ils ont une ligne de trois quarts, on l'a assez dit, hein, ils ont une ligne de trois quarts qui est internationale, qui est vraiment au-dessus en termes de marqueurs d'essais, de nombre d'essais marqués par l'équipe, etc. Mais là, ils ont quand même un faire-valoir qui est intéressant, Toulon, qui n'a pas donné, qui devra, je pense, se comporter, qui a rien à perdre, sur le coup, de la demi-finale. Il joue contre le champion d'Europe, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc, c'est possible. S'il y a une surprise, c'est peut-être à l'occasion du deuxième match. Mais on s'achemine vraisemblablement vers une finale Stade Toulousain, Bègles-Bordeaux.
La finale attendue en tous les cas. En match de barrage, vous l'avez dit tout à l'heure, Perpignan s'est sauvé et donc jouera la saison prochaine en top 14. Les Catalans se sont imposés 13-11 à Grenoble.
Ça a été épique, ça a été au forceps, comme on dit. Grenoble, sur le match, Grenoble méritait évidemment de gagner. Mais il y a eu des erreurs d'en avant, des trucs invraisemblables. Et il faut croire que Grenoble, ça fait 3 ans de suite qu'ils jouent la montée.
Et ça fait 3 ans de suite qu'ils échouent.
Qu'ils échouent. Donc il y a peut-être un chat noir dans l'équipe. Hein. Je ne sais pas si je n'ai pas regardé tous les noms des joueurs, mais il y en a peut-être un qui s'appelle le chat noir. Donc,
et du SAP, 3 playoffs. Barrages sur 4 ans.
Mais c'est aussi ça veut aussi dire qu'il y a un petit écart quand même entre
la Pro D2.
Le premier tiers du Pro D2 et le dernier tiers en top 14, il y a quand même la différence sur les matchs, évidemment. Donc on l'a vu avec Van qui s'est quand même bien comporté cette année en top 14, mais qui est redescendu malheureusement. Et puis on donne pas cher pour le moment des chances de
Montauban l'année prochaine
en top 14, et avec l'USAP qui reste en première division. Donc ça sera la seule équipe un peu où tout le monde va vouloir se faire les points et faire des changements d'effectifs.
Bon, eh bien on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt pour ce qui est des demi-finales de ce top 14 le week-end prochain. Et en attendant, on passe une page de pub.
RRB, la pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Gino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta, en face de l'aérodrome. Sur place ou à livrer avec Nidit, profitez d'une pizza généreuse et savoureuse avec des ingrédients frais. Gino Pizza, l'allié de vos moments d'évasion, téléphone 31 91 92.
Mai au 19 juin, faites pousser vos envies. La jardinière sur pied Venezia est à 2 990 francs seulement. Alors profitez-en, cultivez vos aromates et légumes. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
RRB, il est 17h32. On retrouve tout de suite la suite d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
De retour dans cette émission sportmédable avec les brèves de la semaine, et elles sont assez nombreuses. On va commencer par du football. Messieurs, vous réagissez comme vous voulez. Donc c'était cette nuit là, le début de la Coupe du Monde des clubs, nouvelle compétition ou compétition remaniée qui aura lieu donc tous les 4 ans. Et on attendait finalement le fameux match d'après pour le PSG. Le PSG s'en est plutôt bien sorti. Qui veut s'y coller?
C'est un match qui arrive très vite après
15 jours.
Après l'extraordinaire victoire en Coupe d'Europe. Donc il continue sur la lancée. C'était quand même prévisible. On n'imaginait pas, avec le travail effectué tout au long de l'année, qu'ils arrivent un petit peu les mains dans les poches. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Mais
on n'attendait pas forcément non plus que les hommes de Diego Simeone soient dépassés à ce point-là.
On est bien d'accord, mais aujourd'hui, Paris est quand même, et on l'a vu évidemment en finale, et c'est là où on se rend compte que ce n'est pas seulement une finale qu'ils ont dominée parce que c'était un jour extraordinaire. Non, ils ont dominé la deuxième partie de la saison, ils ont atteint un niveau, je pense, rarement vu quand même. Et donc, voilà, il joue l'Atlético Madrid, qui a fini quand même son championnat, un peu K1K1. Il y avait deux classes d'écart. Le résultat est logique.
Bon, pour terminer sur ce match, la charnière française composée de l'anglais et le normand a énormément souffert. Hein. L'anglais a même pas fini le match d'ailleurs, carton rouge bête pour contestation, mais on a senti que c'était compliqué
Après,
depuis la première
minute. Après, les défenseurs qui vont souffrir contre Paris,
il y en aura
quelques-uns, et j'espère qu'ils seront pas tous expulsés, mais ça va être compliqué pour eux l'année prochaine encore. Hein.
Allez, messieurs, on change complètement d'univers et on part aux 24 heures du Mans, où c'est une Ferrari. Alors, ça va un peu mieux dans les courses de ce type qu'en Formule 1, Grégory Sirk. C'est la Ferrari numéro 83 d'AF Corse qui s'est imposée devant la Porsche numéro 6 et la Ferrari numéro 51. Les pilotes vainqueurs s'appellent Robert Kubica, Yefei Ye et Philippe Hansson. Kubica n'est pas un inconnu.
Non, bah avant, il était en Formule 1, il s'est essayé au rallye où il s'est complètement broyé une main lors d'un accident et tout le monde le donnait complètement perdu. Donc là, remporter les 24 heures du Mans, qui doit être une course, une des plus dures au monde, puisque celle qui dure le plus longtemps.
Une course d'endurance.
Et le voir gagner, ça fait plaisir.
On a beaucoup de pilotes de F1 qui se reconvertissent en endurance.
Il y a beaucoup de passerelles, oui.
Voilà. Un petit mot, messieurs, sur la magie que représente cette course des 24 heures du Mans. Eric,
c'est une course mythique. Alors c'est facile de le dire, mais c'est plus que ça, quoi. C'est vraiment un des mythes du sport mondial, pas seulement de la course automobile. Les 24 heures du Mans, ça a fait rêver depuis des décennies et des décennies. Des films ont été tournés sur le sujet. Enfin voilà, on en rêvera toujours. Il est dommage, effectivement, alors pas dommage par rapport aux 24 heures du Mans, mais que les Ferrari soient aussi fortes en endurance et complètement dépassées, j'ose le dire, en Formule 1. C'est un petit peu, c'est un petit paradoxe, mais tant mieux pour eux. On aimerait quand même voir un pilote français gagner ses 24 heures du Mans. Ce ne sera pas encore pour cette année, c'est dommage.
On va attendre pour l'année prochaine. Et puisque vous voulez un Français qui gagne, on va parler de judo et de Johan Benjamin Gaba, champion du monde en moins de 73 kilos. Alors, si vous vous souvenez, il a été révélé aux yeux du grand public l'année dernière au JO de Paris, notamment sur le par équipe où il va chercher sa victoire pour remettre l'équipe de France dans le bon sens. Et donc, il vient de confirmer de la plus belle des manières.
Dans le sport, on sait que c'est toujours difficile de confirmer. Voilà, et on le voit souvent au judo d'ailleurs, même si on a en France la chance d'avoir des judokas exceptionnels et qui gagnent très très souvent, mais on sait que c'est compliqué. Voilà, il avait montré que c'était un des meilleurs du monde sans pour autant, je ne sais plus s'il avait remporté la médaille d'or d'ailleurs,
non,
en individuel.
Non, il
je crois pas,
hein,
c'est bien ce qui me semblait. Là, il est attendu, je crois qu'il gagne, pour aller en finale, il gagne sur 5 hippons.
C'est ça.
Voilà, donc.
Dans une catégorie très très haute.
Ouais, moins de 73 kilos, c'est
une catégorie les plus difficile.
Catégories sont difficiles, mais celle-là est peut-être encore plus difficile
très,
que les
très
autres.
Très très relevé.
Donc vraiment un très très grand exploit.
Un petit mot de cyclisme maintenant avec la victoire étonnante de Tadej Pogacar,
on ne connaît pas ce cycliste.
Sur le Critérium du Dauphiné, devant Vingegaard, un deuxième petit jeune qui démarre à 59 secondes derrière. Les deux hommes sont extrêmement en forme et affûtés. Et donc le départ du Tour de France dans 15 jours laisse augurer une bataille
Ça promet un beau Tour de France.
Une belle victoire de Pogacar. Enfin, je m'avance peut-être un peu, mais il a l'air quand même tellement au tuyau. Ah, c'est dommage qu'on ne voit pas, mais on comprend pourquoi le petit Français Sexas. C'est dommage qu'on ne le voit pas pour le Tour de France. Bah, il est trop jeune, il le préserve, c'est normal, mais on aimerait bien voir un petit peu ce que ça va donner
à l'avenir. Dans les années et les courses à venir. Un dernier mot dans ces brèves, messieurs, de l'athlétisme, et on va partir très très haut. On va partir à 6m28 avec Mondo Duplantis.
Non, mais là, tu nous enlèves tous les coups de cœur qu'on aurait pu éventuellement.
Non, vous pouvez revenir sur les coups de cœur. De ce qu'on a déjà évoqué, mais Mondo Duplantis, chez lui à Stockholm, a une fois de plus battu le record du monde. C'est la 12e fois qu'il bat son propre record du monde.
On pensait qu'on verrait pas un autre Bubka. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a eu un nouveau Bubka.
Voilà. Oui, Pierre.
Oui, il y a un Calédonien qui s'est distingué également ce week-end. C'est Maxime Conseil, je crois que.
Absolument.
Voilà, il a réalisé le deuxième meilleur temps sur 25 mètres papillon, qui est sa course préférée, et est qualifié pour les prochains championnats du monde à Singapour. Voilà,
donc. Exactement. Donc je vous l'avais dit, on a.
C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté après les Jeux Olympiques et qui a continué. Donc c'est comme le judoka.
Comme le judoka Gaba dans la continuité des JO. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission et donc on va passer à vos coups de cœur. Pierre Forest, on va commencer par vous.
Alors moi, c'est plutôt un hommage que je voudrais rendre à Monsieur Jacques Bégaud, qui est décédé, qui est parti, qui nous a quittés cette semaine, en début de semaine, je crois.
Et à qui nous dédions cette émission, d'ailleurs.
Ans, à qui on dédie cette émission. Une grande figure du sport calédonien, qui a commencé comme pratiquant aux Jeux des premiers Jeux du Pacifique en 1963 Fidji, qui a fait ensuite ceux de Nouméa, et il s'était distingué à Nouméa, puisque c'est lui qui avait prêté serment au nom de tous les sportifs, au stade de Numadélé. Et il a ensuite terminé sur deux autres jeux, en 71 à Papeete et en 75, me semble-t-il. Et puis, il est resté fidèle à un seul club, son club de cœur, qui est l'Olympique de Nouméa. Et je crois que... Respect, monsieur Bégaud.
Voilà, et l'Olympique de Nouméa qui malheureusement fêtera ses 95 ans cette année sans monsieur Bégaud. Éric, votre coup de cœur de cette semaine?
Alors, on a donné beaucoup de résultats et on a parlé de grands champions, donc ça aurait pu être des coups de cœur. Moi, ce sera finalement plutôt un coup de griffe. Je reparlerai encore un peu de golf contre les instances dirigeantes du golf mondial qui cherchent à tout prix à réduire le niveau des golfeurs professionnels, des meilleurs golfeurs, en prévoyant de changer les balles de golf, en les modifiant, en essayant toujours de réduire l'avancée technologique du matériel, et c'est dommage. On se rend compte, avec cette US Open qui s'est terminée ce midi, qu'il suffit de préparer les parcours comme il se doit, de les durcir, et c'est finalement relativement facile. Voilà, il y a beaucoup de parcours qui sont extrêmement exigeants dans le monde. Quand on les durcit avec une préparation comme l'US Open, il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de réduire la qualité des balles, il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà, ça suffit.
Est-ce que ce n'est pas un problème récurrent qui existe aussi dans d'autres sports?
Absolument, absolument. Mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Et puis les joueurs s'améliorent, c'est normal. Voilà, on ne va pas compliquer la chose pour Armand Duplantis à la perche. C'est déjà assez difficile comme ça. Donc ce n'est pas la peine de réduire la qualité des perches. C'est pas la peine. Ben là, c'est pareil.
Bon, eh bien, spot coup de griffe est entendu. Grégory Sirgue, un coup de cœur ou un coup de griffe alors ?
Un coup de cœur à tous les organisateurs, tous les bénévoles, tous les partenaires et tous les équipages de la Groupama Race. Ça fait du bien de voir un événement comme ça, que l'on suive la voile ou non, mais un événement avec un petit retentissement régional et qui amène un peu de positif en ce moment et une belle fête du sport.
Eh bien, merci messieurs d'avoir été avec moi sur cette émission et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.